connecté avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70. Charlotte Hydrac.
L'appel sur l'actualité, deuxième partie, bienvenue. Si vous nous rejoignez pour le débat du jour consacré à la crise qui perdure dans les régions anglophones du Cameroun, une nouvelle journée ville morte hier dans ces deux régions anglophones. On va y revenir, mais d'abord, chose promise, chose due, le foot et la question d'Abdoulaye qu'il nous posait juste avant le journal. Abdoulaye à Conakry, après le match PSG-OM dimanche soir, le PSG sans pitié, 5 buts à 1. Abdoulaye se demandait quelle a été la stratégie d'Unai Emery dans ce classico et est-ce qu'il reste sur la même ligne que lors de son match de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone où là encore le PSG n'avait pas fait les choses à moitié, un 4-0 en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Éric Mamrut, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde.
Du service des sports, est-ce que l'entraîneur du PSG donc là a encore une fois fait les bons choix, est-ce qu'il reste donc sur la même ligne?
Oui et non, c'est pas tout à fait la même chose que par rapport au match face au FC Barcelone. Bon, on sait que le PSG, même avec Unai Emery comme avec Laurent Blanc, fonctionne avec un 4-3-3, en tout cas maintenant, après quelques mois d'hésitation du côté du technicien basque. Il y avait eu un 4-3-3 face au FC Barcelone, il y a eu un 4-3-3 face à l'Olympique de Marseille, à la différence près qu'il y avait un changement de joueurs importants. Il n'y avait pas face à Marseille Draxler ni Di Maria, qui sont des ailiers confirmés. Ces deux joueurs étaient quelque peu souffrants pour jouer face à l'Olympique de Marseille. À la place, Unai Emery a choisi Lucas, le Brésilien, qui lui est bien un ailier, mais également Pastore, l'Argentin, qui lui a un rôle un peu plus axial que ses autres joueurs. Il décroche, il alimente en ballon Cavani et les autres. Il vient chercher les ballons et on l'a vu sur le deuxième but de Cavani, c'est lui qui fait la passe décisive. Il est véritablement dans une position un peu plus axiale. Donc, changement un petit peu tactique de la part de Unai Emery, même si au niveau de la stratégie, le bloc équipe du Paris Saint-Germain, c'est à peu près toujours le même fonctionnement, avec une équipe qui joue haut, qui va confisquer le ballon à l'adversaire en faisant le maximum pour imposer sa loi au milieu de terrain avec un des meilleurs milieux de terrain d'Europe avec Matuidi, Verratti et Rabiot. Après, la différence, c'est que Marseille n'est pas le FC Barcelone, même si le Barça en ce moment, c'est pas tout à fait ça, et que Marseille a fait un pressing éclaté, désorganisé, jouait haut mais en laissant des brèches à l'adversaire. Raté. Donc évidemment, ça vide jouer en faveur du Paris Saint-Germain.
Abdoulaye, à Conakry, vous aviez une autre question dans le prolongement de la première. On vous écoute.
Oui, Charlotte. Le PSG a également infligé le Grand Barça 4-0 et puis l'Olympique de Marseille 5-1 alors que contre Toulouse, 0-0. Je veux savoir, est-ce que le PSG se réserve pour les grands rendez-vous?
Alors, Éric Mamrut, est-ce que le PSG mouille plus ou moins la chemise selon les rencontres?
Pas vraiment. Alors, il faut savoir que ce match face à Toulouse, c'était juste après le match face au Paris Saint-Germain. Quelques jours seulement après. Donc après le match face au FC Barcelone.
Oui.
Donc ils étaient un petit peu fatigués, forcément ça leur a demandé.
Ça aurait pu leur donner des ailes aussi.
Oui, mais il y avait tellement d'enjeux dans ce match-là, le FC Barcelone, ils avaient perdu déjà un nombre incalculable de fois face à cet adversaire et la Ligue des Champions,
bon, c'est une question de calendrier alors.
Un des gros objectifs de l'équipe. Alors après, c'est évidemment que le Paris Saint-Germain a essayé de gagner ce match face à Toulouse qui n'est pas une grosse équipe du championnat, même si Toulouse avait battu le Paris Saint-Germain au match aller. Donc cette équipe, c'est une équipe contre laquelle le PSG n'aime pas trop jouer, une équipe qui joue bas, qui joue très défensif. C'est véritablement la stratégie qui gêne le Paris Saint-Germain, à l'inverse de la tactique employée par l'Olympique de Marseille il y a quelques jours. Donc Paris a fait tourner lors de ce match face à Toulouse pour faire reposer une partie de ses cadres et les remplaçants en ce moment, Maxwell, Aurier, Kunku, même Thiago Motta, ça n'égale pas les titres titulaire actuel, Meunier, Kurzawa, Verratti, tout en sachant que Paris aurait pu gagner ce match parce que Paris a eu des occasions, même s'il manquait un petit peu d'énergie. Et il a eu une occasion avec une tête de Marquinhos que Kimpembe a dévié sur la propre ligne de Toulouse. Et aussi, il y avait un tir sur le poteau. Donc, ça a fait que Paris n'a pas pu gagner ce match qu'il a dominé. Et en tout cas, Paris ne choisit pas ses rencontres, car Paris est obligé de gagner tous ses matchs parce que Paris est en retard au classement. Paris, le champion de France en titre, multiple champion de France en titre, n'est que troisième au classement, donc ne doit pas perdre de points en route. Paris a 3 points de retard sur Monaco qui est en tête, donc Paris ne peut pas se permettre de choisir ses matchs.
Bon, ben on verra pour la suite les prochains matchs. Merci à vous, Eric Mamout. Merci à Abdoulaye, à Conakry. On en vient donc à notre débat du jour, le malaise qui persiste dans les deux régions anglophones du Cameroun, le sud-ouest et le nord-ouest du pays. Hier, comme chaque lundi depuis plusieurs semaines, les protestataires ont lancé un appel à une journée ville morte, les commerces fermés, les rues désertes. Un nouvel appel est prévu aujourd'hui. Il y a un sentiment de marginalisation de la communauté anglophone, le sentiment d'être devenus des citoyens de seconde zone. Que pensez-vous de cette situation, des revendications? Qu'est-ce que vous pensez aussi de la réponse du gouvernement, quelle solution pour sortir de l'impasse? On est en ligne d'abord avec Émile à Yaoundé. Bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour Charlotte, bonjour auditeurs de RFI.
Quel regard alors vous portez sur cette crise qui dure et qui dure?
Principalement la crise dans les zones anglophones due tout simplement parce que le gouvernement camerounais est beaucoup plus habitué au passage en force que par la négociation. C'est la raison pour laquelle, n'ayant pas pu accepter de négocier avec le leader du consortium, autant il négocie avec les terroristes de Boko Haram lorsqu'il s'agit de libérer les otages, ils ont choisi la méthode de les embastiller, de les mettre zéro, et pourtant c'était avec eux qu'ils négociaient par le passé. Donc je me dis, le gouvernement camerounais n'a pas voulu régler le problème de fond. Il s'est contenté tout simplement d'appliquer des méthodes habituelles qui, dans certaines conditions, marchent. Mais malheureusement, ça met à lumière le fait qu'ils ont une très mauvaise appréciation des profondeurs de la colère, du sentiment d'injustice et de la frustration qui travaille les populations ressortissantes du nord-ouest et du sud-ouest.
Donc vous dites problème de méthode et de compréhension du problème. Concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, je pense que ce qu'il faut faire, premièrement, c'est la libération de toutes les personnes interpellées, accélérer le processus de décentralisation dès 2017 à travers le vote d'une loi de finances rectificative de la session de mars 2017, en augmentant significativement les crédits transférés aux communes. Il faut un remaniement ministériel afin de choisir les personnalités les plus représentatives des populations, mettre sur la table le débat sur le fédéralisme qui aboutirait à la consultation du peuple par voie référendaire, rétablir Internet, assurer une large diffusion des résultats des commissions d'enquête avec des sanctions sévères à l'endroit des forces de maintien de l'ordre ont violenté les étudiants et les avocats.
Mmh. Bon, bah, ça fait déjà pas mal de pistes. Émile, vous évoquiez effectivement Internet coupé depuis plus d'un mois. Les leaders de la contestation arrêtés, leur procès a été reporté au 23 mars devant le tribunal militaire de Yaoundé. Et en attendant, donc la pression continue, notamment avec ces opérations ville morte. Bertrand, vous nous appelez, vous, de Douala. Qu'est-ce que vous pensez des revendications de la communauté anglophone?
Bonjour Charlotte, bonjour auditeurs de RFI. Moi, ce que je voudrais dire pour ampliquer à ce que mon prédécesseur vient de dire, c'est que en fait, il y a un malaise dans cette situation. Et le malaise, il est à quel niveau? Il se pose au niveau de la réaction des autorités face à la situation. Moi, je ne voudrais peut-être pas utiliser un mot qui l'a dit, négociation, parce qu'on négocie quand on a en face deux personnes qui essaient de trouver un consensus sur quelque chose qui n'arrange pas les deux parties. Mais dans le cas de chef, en fait, les populations anglophones essayent juste de réclamer quelque chose qui est légitime et légal. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ces personnes essaient juste de dire, à l'époque coloniale, on a été sous deux administrations, c'est-à-dire la partie francophone a été géré par la France et la partie anglophone par...
Voilà, il y avait le Cameroun oriental et le Cameroun occidental.
Occidental. Alors aujourd'hui, je suis désolé pour beaucoup qui croient que ce problème est un problème d'anglophone et de francophone, de dire que c'est un problème de système. Il y avait deux systèmes. on avait l'indirect rule et le direct rule. Alors aujourd'hui que l'histoire a évolué, aujourd'hui qu'on pense aujourd'hui à unifier, l'unification ne peut être véritable et originale que lorsqu'on garde les éléments qui font l'histoire, parce qu'un peuple c'est une histoire. En fait, c'est ça la question de fond.
Merci à vous, Bertrand. La ligne n'est pas très bonne. Donc, je vais reprendre un petit peu ce que vous venez de dire. Vous rappelez effectivement la profondeur historique de cette situation. La suppression du système fédéral en 1972. En fait, il y a eu un système fédéral seulement entre l'indépendance et 1972. Et aujourd'hui, il y a des spécificités dans ces deux régions anglophones. Par exemple, en matière juridique, il y a l'application de la common law d'inspiration britannique. En matière aussi d'éducation, il y a une spécificité, un sous-système, par exemple, pour les méthodes d'enseignement ou l'évaluation. Restez avec nous parce que je pense que notre prochain auditeur va vous faire réagir. Paul, vous êtes vous à Yaoundé, vous êtes je crois originaire de Bamenda, donc en région anglophone. Alors pour le coup, la réaction du gouvernement, elle vous convient pour vous, il fallait rétablir l'autorité, c'est ça?
Charlotte, tout à fait, mais je dis d'abord que pour ceux qui viennent de parler, je voudrais tout simplement dire qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. Ça, vraiment,
pas de problème anglophone, alors que depuis des semaines, tout est bloqué tous les lundis.
Il faudrait que nous soyons clairs. Et puis quand on parle des mots d'ordre, de grève et tout ça, c'est un peu marginal. Hein? La vie a pratiquement repris son cours normal dans les régions.
Mais hier encore, notre correspondant à Bouéa nous disait que les commerces étaient majoritairement fermés.
Je ne sais pas si elles ont été vraiment à Bouéa, mais j'ai dit que je pense que j'ai de la famille là-bas. La vie a pratiquement repris son cours normal. Mais ce qui est essentiel, c'est de savoir que on ne peut pas parler de la marginalisation des anglophones dans un pays où tous les postes stratégiques sont confiés aux responsables de des régions.
Le gouvernement, il y a quand même assez peu de... Il y a le Premier ministre qui est originaire des régions anglophones, le ministre des Forêts, mais bon, ça fait pas beaucoup, c'est pas très paritaire.
Charlotte, je vous parle des postes stratégiques, vous savez ce que veut dire les postes stratégiques. Le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité est un anglophone, ça c'est clair. Le général de division, directeur de la sécurité présidentielle, ça c'est des postes de confiance, c'est un anglophone. Vous avez 8 universités d'État. Il y a 3 recteurs anglophones. Et puis les autres 8 régions se partagent, je ne sais pas, 5 postes de recteurs. Vous regardez, le président de la Commission nationale électorale indépendante, c'est un anglophone. Les directeurs généraux...
Donc pour vous, la revendication pour une meilleure répartition du pouvoir, ça ne tient pas?
Non, ça ne tient pas du tout. J'ai dit que les postes importants de responsabilité au Cameroun sont gérés par les anglophones. La douane, les finances, le trésor, ainsi de suite. Donc ça, c'est un faux débat. Le fédéralisme, pour moi, également, c'est un faux débat. On a parlé de 1961. Nous ne sommes plus en 1961. Et vous interrogez les Camerounais. L'immense majorité des Camerounais veulent un pays uni et indivisible.
Oui, mais avec la reconnaissance de ses spécificités, comme le demandent les anglophones. Ils ne demandent pas forcément tous le retour au fédéralisme.
Reconnu par le gouvernement, il y a 2 sous-systèmes anglophones et francophones. C'est reconnu. Bon, il ne faut pas que les gens évoquent les choses. Bon, il y en a beaucoup qui en parlent. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et puis, dans ces affabulations, il y a un mélange de tout. Donc, moi, je pense que il faut que les gens descendent sur le terrain et voient ce que le gouvernement est en train de faire. Je crois quand même, et ce qui est important de dire, au départ, qu'est-ce que disaient les grévistes? On veut un peu, les avocats voulaient la traduction des documents au WADA, les anglophones voulaient quelques postes de responsabilité au ministère de l'Enseignement.
Oui, traduction
secondaire.
En anglais, c'est ça, de textes juridiques en français. Oui, je vous écoute.
Débouché sur quoi? Ils ont débouché sur le fédéralisme. Et c'est très grave. Le président Biya, je crois qu'il a été clair le 31 décembre. On peut discuter de tout, mais à l'intérieur de notre constitution.
Oui, le président Biya qui a bien rappelé le Cameroun un et indivisible et le restera. Mais Paul, vous dites que vous êtes satisfait de la réaction du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de la coupure d'Internet complètement coupée depuis plus d'un mois maintenant?
Vous avez la mission principal de l'État, c'est la protection des personnes et des biens. Je vous en donne quelques chiffres. Les grévistes ou bien les meneurs de grève, ils ont posté sur les réseaux sociaux 222 vidéos sur des prétendues exactions qui se seraient déroulées dans les régions anglophones. Mais quand les spécialistes ont été amenés à analyser les vidéos, il y avait pratiquement 214 qui étaient complètement des vidéos tronquées.
Vous dites que c'est des images manipulées.
Manipulées. Alors donc, quand les gens se comportent comme ça, ce n'est pas... Et puis je dis, Charlotte, vous ne pouvez pas faire de vos ambitions personnelles ou des revendications fantaisistes une obligation pour toute la communauté. Vous dites si les enfants vont à l'école, on va vous brûler. Vous dites que si vous ouvrez des boutiques, on va vous brûler. Et puis, les quelques personnes qui adhèrent à ce mot d'ordre de grève, c'est pas peur, hein. Et donc, l'État était obligé de restaurer l'autorité de l'État. Et puis, aujourd'hui, je crois que la vie a repris son cours normal. Les gens peuvent, le camp est un pays de liberté. Les gens en discutent, vous pouvez parler de tout et de rien. Mais on ne peut pas accepter la remise en cause de la forme institutionnelle de l'État. C'est irresponsable.
Merci à vous, Paul. Donc, à Yaoundé, on a bien compris votre point de vue. Vous dites pas de problème anglophone au Cameroun. On est en ligne maintenant avec Liliane. Vous êtes à Yaoundé. Bonjour.
Bonjour Charlotte.
Et justement, vous dites qu'il y a un désintérêt des francophones pour cette question anglophone, si on peut l'appeler comme ça, pour ce qui se passe en tout cas dans les deux régions anglophones de votre pays.
Bah oui, parce que par exemple sur les réseaux sociaux, la réponse de la plupart des francophones, c'est vous qui avez choisi de vous rebeller.
Donc sur les réseaux sociaux en zone francophone, puisqu'on l'a compris, c'est coupé en zone anglophone.
Justement, les réponses en général, c'est comme vous avez décidé de vous rebeller, c'est votre problème, tant pis pour vous, débrouillez-vous avec ça. Mais c'est vrai que moi, en tant qu'enseignante, ce qui me préoccupe le plus, c'est l'éducation. Parce que ici, dans les établissements publics et privés, ici à Yaoundé, on accueille depuis quelques mois beaucoup d'enfants qui viennent de ces régions parce que justement, ils ne peuvent plus aller à l'école. Les parents ont eu peur de toutes ces manifestations, de toutes ces violences.
Et puis, il y a des établissements qui sont fermés depuis maintenant 4 mois, hein, qui n'ont toujours pas rouvert.
Voilà, justement. Donc, on se retrouve ici, par exemple, avec des enfants qui ont pratiquement 3 mois de retard et qui, comme tous les autres enfants du Cameroun, doivent affronter à partir de mai les examens certificatifs. Donc, c'est vraiment ce côté éducatif qui, pour moi, m'inquiète beaucoup parce que...
risque d'année blanche.
Personne ne change ici. Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup à vous, Liliane. Et justement, à ce propos, une réaction sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité qui ne va pas dans votre sens. Un Théophile qui souligne que les élèves des écoles anglophones dans le reste du Cameroun vont bien en cours, que ce n'est pas le gouvernement qui organise les journées villes mortes et qui empêche les élèves anglophones d'aller à l'école. Josiana, vous êtes à Yaoundé, vous également. Vous n'êtes pas très confiante pour la suite, pour la situation dans les zones anglophones?
Oui, effectivement. Et d'abord, je vais m'inscrire peut-être en faux avec l'argumentaire de Paul. Je pense que si les anglophones se sont soulevés, c'est que effectivement il y a un malaise. Mais je crois que le problème perdu parce que on assiste à une sorte de dialogue de sourds, c'est-à-dire que les anglophones demandent une chose et on leur offre autre chose. Ils demandent le fédéralisme, mais on leur propose un comité de pour la promotion du bilinguisme. J'avoue qu'il y a quand même négociation. Et aussi les anglophones, le fait qu'ils soient, que leurs revendications soient en perpétuelle mutation, pour ma part, est aussi une autre cause de pour laquelle le problème perdure.
Josiana, à Yaoundé, effectivement, chaque parti campe sur ses positions et d'ailleurs, dans les zones anglophones, les protestataires entendent bien maintenir des journées villes mortes chaque lundi. Le parti d'opposition SDF, lui, avait prévu une marche début mars à Douala, mais apparemment, la marche a d'ores et déjà été interdite. Merci à vous de vos appels et de votre fidélité. Demain, mercredi, on se retrouve pour un débat consacré à la qualité de vie chez vous. Une récente étude a passé au crible 100 villes africaines pour déterminer où il fait bon vivre. Alors qu'en est-il chez vous? Qu'est-ce qui fait selon vous qu'une ville est agréable à vivre ou pas? Écrivez-nous dès maintenant appel.actu@rfi.fr. Et puis demain, mercredi, Juan Gomez vous donne rendez-vous à Ouagadougou au Burkina pour l'enregistrement de 2 émissions en public. Rendez-vous à l'Institut français pour parler du cinéma africain, d'abord, des cinémas africains à l'occasion du FESPACO. Et puis, on fera aussi un état des lieux de la situation au Burkina Faso. Que reste-t-il de l'espoir suscité par la chute du régime Compaoré et l'élection du président Roch Marc Christian Kabore? Soyez nombreux donc demain à l'Institut français de Ouaga à partir de 15h. Soyez nombreux, mais l'entrée des places est limitée, donc venez tôt. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cette émission et à demain.
Vous avez suivi Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au /144.
Et juste après le journal, dans 10 minutes, Claire et